Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.
Quand j'ai quitté la Kabylie et que je me suis installée en France, partout où j'allais, les gens demandaient « Eh toi, tu viens d'où ? Eh tu viens d'où ? Tu viens d'où ?» Et moi, je savais jamais quoi répondre. Jusqu'au jour où, dans la cour de récréation, je me suis entendue dire « Je viens du ventre de ma mère. Je l'ai quittée il y a 7 ans. » Le petit garçon en face a répondu « Oh, marrant ! Moi aussi !» J'ai quitté le ventre de ma mère il y a 7 ans. Alors on est frère de ventre ? J'ai dit oui. Et à partir de ce moment-là, j'avais plein de nouveaux frères et sœurs de ventre. Des Turcs, des Chinois, des Indiens, des Irlandais, des Japonais, des Italiens, des Espagnols, des... Et j'ai commencé à faire le même rêve, chaque soir le même rêve. Il y avait une femme immense, allongée dans la mer. Son ventre était rond comme le monde. Et de son vagin sortaient tous mes frères et sœurs de ventre. Des Russes, des Bambara, des Peuls, des Italiens, des Chinois, des Japonais, des Suédois, des Français, des Espagnols. Et quand ils marchaient sur le ventre de la grande mère, elle roulait sous leurs pas, comme roule le monde. Ça fait bien longtemps que je n'ai plus fait ce rêve, mais cette nuit, la grande mère est revenue rouler dans mes rêves.
Bonjour, ici Erdiwa pour l'interview. Émission que vous pouvez écouter sur le site internet www.rdwa.fr. Au studio, aujourd'hui, nous sommes en compagnie de deux artistes, Stéphanie James, bonjour.
Bonjour.
Et accompagnée de Amanda Gardon, bonjour.
Bonjour.
Toutes les deux, vous êtes ici pour un spectacle que vous êtes en train de préparer, en résidence donc, qui s'intitule « C'est pour cette nuit ». Cette résidence est amenée aussi à perfectionner sa lumière et pour ça, il y aura Véronique Couga qui est avec vous.
C'est ça.
Puis, à la fin de cette résidence, donc le vendredi 12 octobre à 16h, vous présenterez un rendu de ce travail.
Voilà, c'est ça. On va faire toute cette semaine, donc c'est ce qu'on appelle une résidence de création lumière. Véronique va... faire la partie créative qui est du côté de la lumière, c'est la partie qu'on voit souvent le moins, qu'on considère souvent le moins. C'est ces métiers de l'ombre, des métiers du spectacle, mais qui ont vraiment une importance cruciale en fait au service des créations, parce que la lumière, elle vient révéler et ouvrir des espaces qui n'existent pas quand elle n'est pas là. Donc c'est vraiment un partenaire à part entière et le travail de Véronique Gouga est particulièrement sensible et accompagne notre création avec beaucoup de subtilité. Donc on est ravis de travailler avec elle. Et c'est un spectacle donc, qui mêle récit et contrebasse, comme vous avez pu l'entendre un petit peu dans l'extrait qui vient de se passer. Qui aborde les thématiques de la naissance et de la mort. Vaste sujet.
Pour pour ça, vous êtes partie d'un texte éponyme de cette création théâtrale ?
Pas du tout. En fait, moi, je suis conteuse pour cette création. J'ai commencé par tout un travail de collectage. J'ai fait un certain nombre de cercles de collecte avec le projet de faire une création autour du thème de la naissance au départ. Et à chaque cercle de parole, en fait, il y a des récits de naissance qui y venaient. Et puis, ça se finissait toujours par des récits autour de la mort qui n'étaient pas invités au départ. Mais voilà, les deux pôles étaient toujours invités. Et du coup, j'ai décidé d'associer ces deux pendants de la vie qui entourent comme deux frontières, deux passages, la vie de tout être humain. Et à partir de ces collectages, d'un certain nombre de lectures, de recherches, de vécus personnels, j'ai écrit ce texte donc, qui est le texte du spectacle et qui aborde donc avec l'angle de la lisière de c'est quoi cet endroit de passage que sont la naissance et la mort, comment ils discutent ensemble, qu'est-ce qu'il y a comme singularité et comme coïncidence le fait, enfin, voilà, c'est des passages qui sont en regard l'un avec l'autre. Et avec l'envie très forte de venir questionner au sein de notre monde, qu'est-ce qu'on fait avec ces deux passages ? Comment on les accompagne ? Et pas de manière politique, mais de manière poétique, avec vraiment le décalage qui est celui du spectacle, du conte, de la création, de la poésie.
Amanda Gardone, vous, à partir de ce qu'a écrit Stephanie James, ça vous a inspiré une musique qui devait certainement sortir des sentiers battus, je suppose.
En fait, on s'est rencontrés déjà par le mouvement, on va dire, avec Stéphanie, hors de nos compétences ou de conteuse ou de musicienne. Et puis après, quand tu m'as proposé ça, Stéphanie... C'est venu vraiment toucher à un endroit fort pour moi. Et après, les choses se sont construites ensemble. En fait, un texte et musique. J'ai pas rapporté une musique sur un texte. J'ai l'impression que les choses, elles se sont vraiment construites. Texte, musique, dans l'échange. Et pour moi, le travail, c'était de trouver une couleur qui à la fois venait renforcer ou dire autre chose ou compléter ce qui était dit dans le texte. Voilà, peut-être de manière singulière.
Vous y êtes depuis combien de temps dessus ?
Depuis toute la vie. Non, c'est très difficile, je trouve, de répondre en termes de temps pour une création, parce que c'est comme pour la naissance, en fait. C'est comme pour... en fait, on est né à partir du moment où on est sorti du ventre ou à partir du moment où on a été conçu. Il y a des traditions qui disent qu'on compte à partir du moment où on est conçu, et puis il y en a qui comptent encore avant la conception, au moment où l'idée vient dans la tête des parents. Donc, je trouve que pour une création de spectacle, c'est la même chose. Cette idée de spectacle, elle est née il y a 8 ans maintenant. Les collectages ont commencé il y a 8 ans. Après, il y a eu tout un temps de latence, de recherche, de début d'écriture, de début de réflexion, et puis du vécu. Et puis, il y a eu la rencontre avec Amanda. Il y a eu une première mouture du spectacle qui était complètement différente. Et puis, il y a eu le travail avec une personne qui s'appelle Bernadette Bidaud, qui nous a accompagnés au niveau artistique. Enfin, voilà, ça a réorienté aussi différemment la structuration de l'histoire. Voilà, ça fait 2 ans à peu près qu'on travaille avec Amanda à tricoter quelque chose entre texte et musique et à le mettre au plateau. Voilà.
La musique répond par écho au texte ?
Par écho, je ne sais pas. Elle répond de différentes manières, on va dire. À chaque fois, des fois, elle ne répond pas forcément. Elle est avec. Des fois, elle est en écho. Des fois, elle colle. Des fois, au contraire, elle donne une perspective. Je pense que, justement, le jeu, c'est que la musique, elle se place à des endroits différents. Et le texte aussi. Et c'est le jeu de relation, en fait, entre texte et musique. Voilà, pour moi, c'est ça qui est intéressant de travailler et de jouer là-dessus.
Et puis elle fait pas que jouer, parce que du coup c'était le jeu qu'elle me fasse chanter et puis que je la fasse bouger et parler. Et du coup voilà, du coup l'une et l'autre, on va un peu glisser dans les univers artistiques de l'autre. Et
en introduction, vous disiez que Véronique Gouga participait en tant qu'éclairagiste.
Créatrice lumière, je dirais. Parce qu'éclairagiste, il y a vraiment la notion de juste j'envoie la conduite lumière de ce qui est prévu par quelqu'un d'autre. Alors que là, vraiment, Véronique, c'est vraiment une partition de création. En fait, il y a vraiment, pour moi, c'est un partenariat réel dans la création.
Ce qui impliquerait un décor dans ce spectacle ou c'est très démuni?
Alors, tout le décor est dans la tête. Donc, c'est vraiment plateau nu. Y a Amanda, moi et la grand-mère, donc la contrebasse. Ça, c'est aussi parce que moi, je viens de l'univers du conte. Et dans le conte, le décor se construit dans la tête des gens. Il y a vraiment, c'est les mots en fait et les sons qui font naître les images à l'intérieur. Je ne sais plus quelle personne disait, la radio c'est comme au cinéma sauf que l'écran est beaucoup plus grand. Ben là c'est pareil, le conte c'est comme le théâtre sauf que l'écran est à l'intérieur, il n'est pas à l'extérieur avec le décor sur la scène. Donc il y a vraiment cette ouverture là et pour permettre ça, moins il y a de décors, moins il y a de costumes, au plus c'est neutre dans ce qui est proposé, au mieux les images vont pouvoir se faire à l'intérieur de chaque personne, voilà, chacune à sa manière, chacun va se faire son décor pour habiller les situations. Bien sûr, il y a habitation de l'espace, il y a déplacement, il y a utilisation, parce qu'on est quand même dans un espace de théâtre et que ça implique une autre mise en jeu que quand on est dans dire un conte traditionnel où ça demande encore plus de minima de corps, mais voilà, il n'y a pas de décor du tout.
Au début de l'émission, vous disiez que ce texte, c'est pour cette nuit, traité de la naissance et de la mort. Qu'est-ce qui existe entre les deux?
Ah ben, justement, nous, on s'est intéressés aux frontières. Parce que ben voilà, de toute façon, on n'avait qu'une heure de spectacle, on ne pouvait pas tout raconter. Et donc, je vais pas tout dévoiler du spectacle, mais effectivement, on fait des grands sauts temporels et on ne s'intéresse que à ces deux frontières-là, mais pas du tout à ce qui se passe au milieu. Bien sûr, ça parle de la vie en cela, ça parle de ses contours. Mais en fait, ce spectacle, c'est le premier d'un triptyque pour aller questionner la notion de frontière. Donc là, je voulais questionner ces deux premières frontières les plus intimes qui bordent la vie de tout être humain, donc qui sont les plus communes, les plus partagées, les plus banales, en fait, mais aussi les plus mystérieuses. On ne sait toujours pas ce qui se passe avant et après. On ne sait toujours pas comment ça se passe au moment où ça part et où ça vient, cette vie. Et les prochains spectacles seraient autour de la frontière géographique en lien avec la frontière de la peau. Et c'est où le bout du monde ? Aller questionner les grands bouts du monde, si ça s'arrête quelque part. Voilà.
Amanda Gardone, vous, en tant qu'instrumentiste, vous jouez d'autres instruments ?
J'ai une guitare que j'utilise, on va dire, comme un outil quelquefois pour travailler ou écrire, mais je joue vraiment de la contrebasse. Par contre, j'essaye de l'amener dans différents possibles, différents répertoires, de vraiment la travailler dans toutes les couleurs qu'elle peut offrir. Et elle peut offrir pas mal de couleurs, cette contrebasse, qu'elle soit on joue à l'archer, en pise, en frotté, en... Enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de choses à faire et je m'amuse beaucoup à faire ça.
Ça vous a amené à donc composer une musique pour ce spectacle?
Oui, oui, oui. On est pas mal parti de l'improvisation. En fait, il y a toute une partie de la création qui était improvisée, texte, musique. Et puis voilà, quand on a travaillé avec Bernadette Bidaud, on est allé vers la structuration et donc vers plus d'écriture. Après, tout n'est pas écrit non plus. Il y a des trames, des couleurs qui sont données, mais dans laquelle il y a quand même beaucoup de liberté et qui offre du coup la possibilité d'être vraiment en lien, en interaction avec le texte, le mouvement.
La chaleur de la contrebasse est vraiment l'instrument adéquat pour ce spectacle.
Enfin, c'est, en tout cas, déjà dans sa présence et dans sa forme, c'est un instrument qui a une forme féminine, qui une forme imposante aussi, donc qui a une présence. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas de, il n'y a pas de scénographie proprement dit, mais il y a quand même cet instrument qui a cette présence, voilà. Mmh. Je ne sais pas si tu veux rajouter.
Eh ben oui, pour moi, c'est vraiment un instrument adapté à ce propos parce que dans la contrebasse, il y a à la fois l'infime et l'intense. Et pour moi, et dans la naissance et dans la mort, il y a ces deux choses. Il y a l'infime, il y a l'impalpable, le presque rien, de quand Amanda est en PIDS ou en, voilà, avec des tout petits sons qu'elle arrive à faire. Je ne sais même pas comment elle arrive à faire un si petit son délicat avec un si gros instrument. Et par moments, il y a l'intense de l'archet avec sa densité, son volume, et voilà, la densité de sa présence corporelle à cet instrument, mais qui fait que ça offre une densité de son. Et tous les instruments n'offrent pas ça. Et dans la naissance et dans la mort, pour moi, il y a ces deux choses mêlées. À la fois la vulnérabilité extrême, et puis l'intensité, la puissance dans laquelle sont chaque protagoniste de la naissance et de la mort, qu'ils soient ceux qui sont en train de les vivre ou ceux qui les accompagnent. C'était aussi ce spectacle, l'envie de faire un hommage à des professions qui sont très peu vues, très peu reconnues dans nos sociétés, qui sont les sages-femmes, les doulas, tous les accompagnants et les accompagnantes à la naissance, qui sont des, voilà, qui sont précieux. Et dans le pendant de la mort, avant, on appelait ça les femmes qui aident. C'était les femmes qui accompagnaient aussi la toilette des morts et puis le départ des personnes. Et dans beaucoup de cultures, c'était souvent des femmes qui accompagnaient le début et la fin. Et qui faisait et les toilettes des nouveau-nés et les toilettes des morts et puis tout l'accompagnement autour, au-delà de la toilette bien sûr. Et voilà, il y avait une envie aussi de rendre hommage.
Les lavandières,
enfin voilà, mais c'est tout après.
Toute cette documentation, vous l'avez découverte pour votre recherche d'écriture. Ce sont des textes qui sont que vous avez découverts dans des ouvrages ou alors sur des documentations plus, comment dire, plus administratives aussi.
Non, moi j'ai lu beaucoup. Je ne vais pas me souvenir de tout là, les noms des choses que j'ai lues, parce qu'il y en a beaucoup, mais j'ai à la fois lu des romans, à la fois lu des récits de sages-femmes, j'ai lu des enquêtes d'anthropologues sur justement cette place des femmes à une période où elles étaient aux deux pendant de la vie. J'ai lu des choses aussi sur les rites de naissance et de mort dans différents pays. J'ai lu pas mal de contes où la question de la naissance et de la mort était questionnée et du rapport aussi à ce qui est visible et ce qui est invisible. Voilà, j'ai fouillé assez large tout ce qui pouvait faire référence à ces deux frontières.
Moi, je proposerais bien, si vous le souhaitez, qu'on puisse vous écouter pour un autre morceau, un autre extrait.
Ouais.
Les longs cils de Cécile, les rondeurs de Lucille, les grands yeux d'Anouk, les boucles d'Inouk, le chant de Pénélope, le chant de Pénélope. Printemps 68, nuit de pleine lune, toutes les chambres sont occupées, les sages-femmes sont débordées. Gabrielle, je suis désolée, mais ce soir, je ne pourrai pas t'accompagner. Le grand saut, c'est pour cette nuit. Ce sera ton premier accompagnement d'accouchement, seul, mais tout va très bien se passer. Si vraiment il y a une urgence, je suis en face avec la femme de la 17. Gabrielle s'est retournée. Face à elle, la salle de travail. Ses jambes étaient en coton. Tout va très bien se passer, c'est pas le moment de flancher. La femme est là.
et excusez-moi, madame, de vous déranger, mais je dois écouter le cœur du bébé. Je vais poser le monitoring, ça va faire un peu froid sur la peau. » La femme s'en est à peine rendue compte. Elle chantait une berceuse. Gabrielle aura écouté le cœur du bébé une vingtaine de fois dans la nuit. Le bébé allait très bien. C'est son cœur à elle qui battait la chamade, faisait les montagnes russes, jusqu'à lui faire battre la poitrine. Tout va très bien se passer, c'est pas le moment de flancher, la femme est là. Ça avance bien, le col est ouvert à 9 maintenant, encore un petit effort. Petit à petit, la berceuse se changeait en râle, rauque. Et les sons discutaient de chambre à chambre, de femme en femme. Un vrai cœur de mère. Oh, je sens sa tête, il est chevelu. Le chant s'intensifiait de plus en plus dans la maternité. Maria Callas s'est réveillée depuis l'autre monde. Elle a collé son oreille contre le mur de la maternité pour entendre le chant. De tous les opéras, c'est ce chant de mère qu'elle préfère. Il est là ! C'est un garçon ! Et après le chant, le cri du bébé. Plus tard, Gabrielle était sur le seuil de la maternité. Face à elle, l'aube se levait. Elle a marché droit devant elle. Elle marchait, et pour elle, c'était le premier matin du monde.
Stéphanie et Amanda, merci pour cet extrait qui s'intitule.
Alors, ben, ça, c'était le premier accouchement de Gabrielle, la sage-femme. Donc, voilà, une des cartes postales de la sage-femme. Où, il faut venir voir le spectacle pour savoir ce que ça veut dire. Mais voilà, on va visiter un peu les souvenirs de cette sage-femme. Et ça, c'est le récit de son premier accouchement seul.
Question de savoir le rôle de la femme dans ces accompagnements. Qu'en est-il aujourd'hui ?
Ah, c'est une très bonne question. C'est un peu pour ça qu'on avait envie de faire ce spectacle. C'était pour pouvoir ouvrir des espaces d'échange. Et on est très contente, Amanda et moi, là-dessus, parce qu'on commence à aller jouer dans des maternités. On tisse des partenariats entre des structures culturelles, des structures hospitalières. Donc, on va jouer dans la maternité de Pertuis, programmée par la médiathèque de Pertuis. Idem avec l'hôpital de Draguignan et la médiathèque de Draguignan. On a joué dans la maternité de Brignoles aussi. Et ça permet, après le spectacle, d'ouvrir des espaces d'échange autour de qu'est-ce qu'on fait avec la naissance aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on fait avec la mort ? Quel rapport on a avec ça ? Comment on accompagne ça ? Et au-delà de la place des femmes dans ces accompagnements, parce que ça, on pourrait en parler longtemps, et puis ça dépasse la naissance, mais il y a dans l'historique de la place de la femme et des hommes dans l'accompagnement de la naissance, il y a un historique, ben voilà, ça a basculé à une certaine période où avant, c'était que les femmes qui étaient présentes, puis il y a eu une professionnalisation et une présence des hommes. Et de nouveau, maintenant, il y a... Voilà, ça se re-questionne, la présence des femmes est de nouveau... Enfin, elle ne s'est jamais arrêtée, hein, juste elle s'est déplacée de place du rôle qu'elle portait au sein de l'accompagnement. Mais plus largement, ce qu'on a envie de permettre comme ouverture de débat, c'est comment on prend soin dès le début de la vie et jusqu'à la fin de la vie. En fait, comment on prend soin de l'humain. Et on est très contente quand, du coup, on va jouer dans des lieux comme... on va revenir dans le Diwa le 8 décembre à 21h. On va jouer à l'ESCDD. On est invité par un collectif qui s'appelle Libre Racine, qui s'est monté suite à la fermeture de la maternité d'Y et qui a envie d'ouvrir des espaces de débat autour de justement comment on fait sur nos territoires pour accompagner la naissance et la mort. Et ils nous ont demandé de venir et on vient avec joie parce qu'on sait que même si à l'intérieur du spectacle, on n'a pas une parole politique, vraiment, il y a une parole qui prend le prisme du poétique pour permettre d'aller ouvrir les espaces sensibles qui permettent après d'aller questionner politiquement les choses. Voilà.
Et puis, vous agissez toutes deux, je suppose, au sein d'une compagnie. Comment s'appelle-t-elle ?
Alors, la compagnie s'appelle Les Racines du Vent.
Et vous êtes de quel endroit ?
Alors, on habite toutes les deux dans la région de Cré. Donc, on est vraiment à côté.
Justement, l'accès du théâtre pour la création, est-ce que pour vous, c'est une nécessité ? Est-ce que, actuellement, les structures répondent à ces attentes ?
Ça dépend des créations, ça dépend des spectacles. Pour celui-là, un espace théâtral est vraiment bienvenu. On aime le, justement parce qu'il peut prendre toute son ampleur avec l'accompagnement de la création Lumière qu'est en train de préparer Véronique. Après, on s'organise là pour que cette qualité de l'accompagnement Lumière et le plus, vraiment, que c'est plus qu'un plus, ça participe à la magie en fait, puisse perdurer. Donc on va faire une création Lumière tout terrain, on appelle ça, pour aussi pouvoir aller le jouer dans des lieux non dédiés comme les maternités, parce que ça nous tient vraiment à cœur de jouer dans le lieu de la naissance. Mais oui, l'accès au théâtre, il est primordial, y compris pour le conte. Souvent, il y a un a priori sur cet art où on croit que comme c'est adaptable partout, ça peut se jouer partout. Oui, c'est vrai, mais il y a quand même un certain nombre de paramètres dont on a besoin, comme la neutralité. Pas toujours, il y en a qui aiment bien jouer justement dans des lieux qui ont une âme, mais en tout cas le silence. Et aujourd'hui, trouver des espaces de silence, c'est pas gagné. Et voilà, mais après sur des formes comme celle de C'est pour cette nuit, où il y a une prise en compte de l'espace, il y a la présence de la musique, de la contrebasse, la présence de la lumière, le théâtre est vraiment nécessaire, c'est l'espace pour ça.
Je reviens sur le silence. Est-ce qu'il en existe dans ce spectacle ?
Oh oui, il y a du silence. Oui, oui. Il y a des moments d'intensité, là, comme on vient d'avoir avec l'archer et le texte dessus, qui est un moment de grande intensité. Et puis, il y a des moments plus où il y a de l'espace dédié au silence de la parole ou de la musique ou les deux ensemble.
Et puis, Stéphanie, vous êtes comédienne, chanteuse ?
Ben, moi, je...
Intermittente ?
Oui. En fait, moi, je me nomme conteuse. C'est la casquette qui me résonne le mieux avec ce que je traficote comme métier. Je trouve ça difficile de mettre une étiquette. Je me dirais pas chanteuse, j'utilise le chant à l'intérieur de mes créations, mais je suis pas chanteuse. Comédienne, je l'ai été, c'est ma formation première. J'ai commencé par une école de théâtre à Paris, et puis après j'ai fait un peu la comédienne quelques temps, mais assez vite j'ai basculé vers le conte parce que j'ai été happée par cette matière, ce répertoire qui est vraiment comme un trésor pour l'humanité et l'envie de le transmettre. Et puis l'envie d'écrire aussi des histoires qui sont en résonance avec là, ici, maintenant, c'est quoi qui peut émerger de nos maintenant.
Et Amanda Gardone, vous-même donc êtes musicienne par formation aussi ?
Oui, j'ai une formation à la fois classique, jazz, et puis après la formation qui se fait au contact de toutes les rencontres. Et donc qui s'est beaucoup ouvert à la rencontre d'autres musiciens, mais pas que des musiciens. Enfin, j'aime beaucoup justement rencontrer danseurs, de théâtre. Voilà, c'est la première fois en fait que je travaillais avec une conteuse. Et ça m'a ouvert encore tout un pan de... voilà, un pan artistique, un pan de vie. Oui.
Eh bien, Stéphanie James et Amanda Gardon, merci d'être venues nous parler un peu de C'est pour cette nuit, hein, un spectacle en préparation et en résidence actuellement au Théâtre de Die, avec un rendu donc le vendredi 12 octobre à 16h au Théâtre de Die, au quartier des Aires. Eh bien, bonne soirée.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir. Dans le couloir de la maternité, il y a deux femmes enceintes, très enceintes, qui discutent. Et pendant qu'elles discutent, il y a les deux bébés qui discutent du ventre de l'une au ventre de l'autre. Et le premier dit « Tu y crois, toi, à la vie après la naissance ?»«
Hein ? Quoi ? Tu vas quand même pas me dire que tu crois à ça, toi ?»«
Mais écoute, je sais pas, des fois je me demande. C'est que j'entends comme une voix souvent.
Hein ? Arrête, tu vas quand même pas me dire que tu crois à maman.
Je sais pas, tu vois. Des fois, je sens aussi comme une caresse sur les bords du monde.
Arrête. Il y a rien après la naissance, et puis c'est tout. C'est des histoires que les gens se racontent, tu vois.
Ah.
Ils n'ont pas le temps de continuer la conversation parce que tout d'un coup, ça serre, ça tourne, ça s'accélère. Et puis, ça naît.
1 Terre Vue.
Okay, the bird.